On espère que vous avez passé une belle semaine et que Dieu vous a béni. On va prier, si vous voulez, d'accord? Courbons nos têtes juste un instant et demandons à Dieu sa bénédiction ce matin. Tendre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, que tu puisses bien vouloir nous parler de choses merveilleuse venant de ta loi, et que nous répondions avec foi, avec joie et pour ta gloire, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est une femme qui s'en va s'acheter une marque assez dispendieuse de maquillage. Et la marque de maquillage garantissait lui donner une peau d'apparence beaucoup plus jeune. C'est garanti. Alors, elle arrive à la maison, puis elle prend tous ses produits. Et elle commence à installer et à placer tous ses produits, étendre la crème, le maquillage. Elle travaille très fort pendant un bon bout de temps. À la fin, elle se retourne de bord, elle regarde son mari, puis elle dit, « Chérie, honnêtement, là, je veux que tu sois honnête. Quel âge ai-je l'air? » Alors, le mari était là, alors il se penche, il regarde comme il faut. Il dit, « Ta peau, 25 ans. Tes cheveux, 18. Ton corps, 25. » Sa femme la regarde, elle dit, « T'es tellement flatteur. » Mais elle dit, « Non, attends, là, j'ai pas fini. Je les ai pas additionnés encore. » Oh boy. Ouais, hein? Vous savez, parfois, on lit la Bible de la même manière. Cette semaine, quand je me suis penché sur le passage qu'on devait regarder cette semaine, la première réaction que j'ai eue en lisant l'histoire, j'ai dit, « Oh, on la connaît, celle-là. » Tout le monde connaît cette histoire-là. Vous savez, il y a ces histoires dans la Bible qu'on lit tellement souvent, qu'on connaît tellement bien, qu'à un moment donné, avec les années, on dirait que ces passages perdent de leur fraîcheur, perdent de leur éclat, de leur beauté. Moi, je me rappellerai toujours lorsque mes enfants étaient jeunes, et puis c'était le temps de raconter des histoires. On racontait des histoires le soir, soit après le souper, ou soit on allait dans notre chambre, et qu'on comptait des histoires de la Bible. Et lorsque je m'apprêtais à compter une histoire, et je commençais à lire une histoire de la Bible que j'avais déjà contée à mes enfants, il y avait toujours un de mes enfants qui disait, « Ah, ah, papa, on la connaît, celle-là. Non, non, papa, c'est correct, on la connaît. Prends-en un autre. On la connaît. » Ça, c'est le fun pour un père, tu sais, qui... C'est bien agréable. Mais vous savez, quand j'ai regardé le passage cette semaine, c'est la réaction que j'ai eue. J'ai dit, on la connaît, celle-là. Vous savez, le problème, c'est pas la Bible. Après tout, le psaume 119 dit que la parole subsiste à toujours. Elle est placée dans le ciel éternellement. Le mot dans l'original est très intéressant, ça dit... La parole est fixée dans le ciel. Ça change pas. La parole ne vieillit jamais. Elle reste toujours jeune. Le problème, c'est nous autres. Et cette semaine, à mesure que je méditais et je lisais et relisais les Écritures, ce passage-là qu'on va regarder ce matin, le Saint-Esprit me faisait voir ce passage que l'on connaît avec un œil nouveau. C'est comme si la fraîcheur de ce passage est revenue dans mon cœur. Je pouvais voir à nouveau, avec un œil nouveau, la beauté, la richesse de sa parole. On retrouve ce matin Jésus alors qu'il vient d'apprendre qu'Hérode est très préoccupé par le succès de Jésus-Christ. Effectivement, quand on lit les Écritures, lorsqu'on arrive à ces chapitres, on s'aperçoit que Jésus est rendu vraiment au summum, à l'apogée de sa popularité. Sa popularité est croissante et croissante, et c'est rendu que non seulement ça dérange les chefs religieux, comme on a vu au chapitre 12, où les pharisiens maintenant veulent même faire tuer Jésus, mais c'est rendu que la popularité s'est même rendue au gouvernement. Et voilà qu'Hérode est très préoccupé et angoissé par la popularité montante de Jésus-Christ. On va aller voir sa réaction dans Matthieu 14, d'accord? Prenez Matthieu 14 au verset 1. Matthieu 14, verset 1. Premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 14, verset 1. Alors, j'espère que vous êtes là et voici ce qu'on va faire. On va regarder le premier verset. Regardez bien, on va voir l'attitude et la réaction d'Hérode. Alors, vous êtes là, Matthieu 14, verset 1. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait des miracles. D'ailleurs, juste pour montrer, aller un peu plus loin dans la réaction d'Hérode, Marc va expliquer un peu ce qui se passe avec Hérode. Marc 6, vous n'avez pas besoin de tourner là, je vais vous le lire. Il dit ceci. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, non, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Voyez-vous toutes les discussions qu'il y avait au gouvernement à l'endroit de Jésus-Christ? Parce que Jésus était rendu très, très populaire. D'ailleurs, on arrive au chapitre 14 de Matthieu. Et Jésus, la popularité de Jésus atteint un sommet assez impressionnant. Si bien que ça dérangeait Hérode. N'oublions pas, Hérode ne voulait pas céder sa place à quelqu'un pour qu'il devienne roi d'Israël. Hérode se disait le roi d'Israël. Il n'était pas prêt à donner sa place. Rappelez-vous ce que son père a fait. Son père, lorsqu'il a appris par les mages qu'un enfant est né et que c'était pour être le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses soldats, puis il a fait raser la ville, tous les nouveaux-nés, en bas de 2 ans, il les a fait tuer. Alors, ce que Hérode, le père, redoutait, était en train de se réaliser dans la vie d'Hérode, l'autre Hérode. Voilà que cet homme, à cause de ses miracles, ses guérisons, à cause de ses prodiges, il devient de plus en plus populaire et la foule le suit de plus en plus. Alors on prend la lecture, alors que Jésus apprend qu'Hérode est très préoccupé par la venue de Jésus-Christ et surtout de sa popularité, et je peux vous garantir une chose, Hérode va vouloir le tuer. On prend la lecture, donc on va aller un peu plus loin, et on prend la lecture au verset 13. Et le verset 13 commence en disant ceci, à cette nouvelle. Quelle nouvelle? Certains pensent qu'il s'agit de la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, parce que Matthieu vient d'ouvrir une parenthèse donnant une description sur la façon que Jean-Baptiste vient mourir, mais c'est pas ça. Jean-Baptiste est déjà mort. À cette nouvelle remonte au verset 1 et 2. Dans le fond, Matthieu ouvre simplement une parenthèse pour nous laisser voir ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Et Matthieu est en train de nous ramener au verset 1, verset 2. Est-ce que Jésus apprend à cette nouvelle qu'Hérode est très angoissé, préoccupé par la popularité croissante de Jésus-Christ? À cette nouvelle, Jésus décide de quitter la place, les lieux, prendre une barque avec ses disciples et aller sur le lac de Galilée, partir. Dans un coin plus tranquille. Et c'est là qu'on retrouve Jésus au verset 13. Et nous lisons le verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Évidemment, Jésus voulait aussi se protéger. Oui, les disciples étaient fatigués, ils revenaient d'une mission, alors on a dit on va aller se reposer à l'écart, Jésus lui sait. Mais évidemment, Jésus est préoccupé parce que Jésus ne veut pas tout de suite avoir ce piège, il veut finir et accomplir sa mission. Elle n'est pas encore complète, il veut aller jusqu'au bout. Alors, il choisit d'aller à l'écart parce que les gens se questionnent sur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Il y en a qui pensent que c'est Élie, Hérode pense que c'est Jean-Baptiste, d'autres pensent que c'est un prophète. Qui est Jésus? Récemment, vous savez, une hindouiste qui s'est ajoutée à la banque alimentaire Bouffe pour tous et on s'est lié un peu d'amitié. Une femme très gentille du nom de Mira. Et puis, elle vient aider, elle est très généreuse, très gentille. L'autre jour, elle est venue me voir, puis elle a dit, « Normand, tu devrais venir nous voir au temple à Brossard. » Elle parle en anglais, puis elle a dit, « Au temple hindouiste. » Elle a dit, « Oui, oui. » Elle a dit, « Viens voir qu'est-ce qu'on fait avec les démunis, on aide, on prépare un dîner. » Tout après le service, comme ça, on prépare un dîner, puis on donne la nourriture, des repas à 400 personnes. Tu devrais venir voir ça, puis tout ça. Alors, j'ai partagé l'évangile à Mireille avec son mari, puis je me suis demandé la question, « Ça pense quoi un Indien de Jésus-Christ? » Il y a toutes sortes de pensées sur Jésus. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qui est Jésus? Et c'est la question qui se promenait au gouvernement de l'époque. Les Indiens ont une opinion sur Jésus-Christ. Maintenant, il y a plusieurs écoles chez les Indiens. Une en particulier qui s'appelle le Vaishnavisme croit que Jésus est un, et je vais essayer de le dire correctement, Saktyavesha Avatara, qui veut dire Jésus est un être vivant, c'est un humain, il a une puissance qui lui a été accordée pour accomplir une mission spéciale, mais ce n'est pas Dieu. Connaissez-vous d'autres mouvements qui croient à la même chose? Alors, Jésus sait qu'Hérode se sent menacé par lui, et rien ne va arrêter Hérode pour aller chercher Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une barque, s'éloigne, s'en va et se dirige un peu plus loin vers le nord, est de la Galilée. Mais voilà, c'est assez difficile de fuir la foule. C'est pas immense, le lac de la Galilée. On pense qu'il y a à peu près 80 kilomètres au nord et on sait qu'il y a 40 kilomètres de large, à peu près. C'est pas immense. C'est un peu comme même Frémagogue, un peu en termes de longueur. Et c'est pas immense. Alors, Jésus prend la barque et s'en va et veut aller dans un coin plus tranquille. Mais comment tu fais pour aller dans un coin tranquille quand c'est très peuplé? Immense. 204 villes et villages dans le coin. Et la plus petite ville a au moins 15 000 habitants. T'as beau chercher un coin tranquille, mais là, t'as la foule qui voit Jésus, vient de guérir des gens, mission assez extraordinaire. Délivrance, puissance, chasser les démons. La foule n'était pas prête à laisser partir Jésus. Tu veux pas laisser partir Jésus, vrai? Tu veux l'avoir avec toi, tu veux être proche de Jésus-Christ. Alors, tu t'en vas, la foule s'en va, et tranquillement, au fur et à mesure qu'elle avance, et elle voit la barque s'en va, et la foule, il y en a qui courent même, il y en a qui vont tellement courir vite, qu'ils vont même dépasser à un moment donné Jésus, puis Jésus arrive, puis la foule, déjà, il y a une foule qui les attend. Ça devait être les plus jeunes, ça. Ceux qui faisaient du jogging, je ne sais pas trop, ils étaient vraiment habitués, eux autres. Alors, s'en vont, et la foule, les gens quittent leur village, il y a beaucoup de villages, on pense à 204 villages, et ça quitte tranquillement un village, s'en vient, ça joint à la foule, et à un moment donné, l'autre bord, au nord-est, Bethsaida Julias, qui est juste un coin plus loin, Jésus arrive là, puis voit la foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jésus fait devant la foule? Regardez bien sa réaction. Verset 14, eh bien, on va continuer, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Très grande foule. On lit un peu plus loin qu'il y a 5000 hommes. On pense avec les femmes et les enfants. J'ai entendu différents chiffres, mais raisonnablement, très conservateur, on peut penser qu'il y avait au moins 15 000 personnes, 20 000. J'ai même entendu un prédicateur assez connu disant qu'il devait avoir au moins peut-être 25 000 personnes. Alors, certainement une grande foule. Foule, c'est déjà assez grand. Grande foule, c'est pas mal grand. On s'entend? Alors, Jésus voit la foule et qu'est-ce qu'il va faire? Il est ému de compassion. Maintenant, quand on parle de compassion, on parle vraiment de son cœur. C'est le cœur de Jésus-Christ. On parle comment il se sent, c'est ses tripes. Il est à l'envers, il voit la foule. Ailleurs, on apprend qu'il est ému de compassion, voyant que la foule n'a pas de berger. Il voit les nombreux besoins de cette foule et il voit au-delà de l'apparence, il voit au cœur. Il y a bien des gens qui accusent Dieu de ne pas être sensible, de manquer de sensibilité à l'égard de ceux qui souffrent et ceux qui sont en douleur. Mais ce n'est pas le Seigneur que je vois ici. Je vois Jésus-Christ devant la foule qui voit cette foule qui. Et ils ont amené les malades, ils ont amené peut-être des centaines de malades. On parle de 20 000 personnes à peu près, donc certainement des centaines de malades. Et Jésus voit la foule, il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à guérir les gens. Ailleurs, on apprend qu'il va passer toute la journée à enseigner la parole et à guérir, et à guérir, et à guérir. Que fait Jésus? Guérit. C'est intéressant de voir quels sont les dons que Jésus a donnés à ses disciples. Avons marqué ça avant d'envoyer les disciples en mission. Quels dons a-t-il donné? Il me semble que ça avait été moi, j'avais bien calculé mon affaire avec le marketing un petit peu. J'aurais arrangé ça pour que les disciples fassent des choses pas mal extraordinaires, très impressionnantes. Marcher sur l'eau, par exemple. Il me semble que c'est assez un show, assez impressionnant. Tes disciples sont là, invitent toute la foule, puis disent « Regardez bien ce qu'on va faire. » Là, tu as Pierre, Jacques et Jean, puis commencent, regardez bien ça. Puis là, ils commencent à marcher sur l'eau. Vous voyez? Venez à Jésus, regardez les choses extraordinaires qu'on fait. C'est fantastique, on marche sur l'eau. Incroyable ce que vous allez faire avec Jésus. Venez à Jésus, vous allez avoir des pouvoirs extraordinaires. C'est fantastique. Regardez ça. Voulez-vous que j'aille un peu plus loin, hein? 15 pieds, un peu plus loin, je vais aller marcher là-bas. Regardez ça, c'est extraordinaire. Puis sans moi, j'aurais fait ça comme stratégie de marketing. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il donne des dons de guérison. Des dons de chasser les démons. Pourquoi? Ça, c'est le Seigneur qu'on a. Faire du bien aux gens. Dieu est touché, ému de compassion devant ceux qui souffrent. Voyez? D'ailleurs, je pense, en réfléchissant cette semaine, et ça n'a pas été facile, mais d'ailleurs, même cette nuit, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit en pensant à ça et tout ça, mais je pense que c'est l'une des raisons pourquoi je suis venu au Seigneur. Quand un de mes clients m'a présenté l'Évangile, j'étais rendu vraiment, au niveau de la carrière, ça allait super bien. Mon ami, ça roulait, on était 22 vendeurs, puis et c'est sans prétention, j'étais vraiment comme une étoile montante dans la compagnie. Le plus jeune, il y avait des records de brisés de vente et tout ça. Ça allait bien sur le plan de la carrière. Mais voyez-vous, j'avais une façade. Je donnais l'impression du gars toujours heureux, ça allait bien, yeah, puis let's go, on fonce, on va, tu sais, on va péter des records, tu sais, puis tu y vas, puis. Personne à l'extérieur me voyait comme le gars dans le cœur qui souffrait. Certainement, quand on a présenté l'Évangile, une des raisons pourquoi je suis venu au Seigneur, c'est parce que j'avais peur de l'enfer. Je vais être bien honnête avec vous, là. Je ne voulais pas aller là. Ça, je vais être honnête avec vous, on m'a présenté l'Évangile, puis ça, puis enfin, quelqu'un qui me donne des réponses concrètes quand tu viens à Jésus-Christ. Et j'étais pécheur, j'ai reconnu, j'étais pécheur, j'ai demandé pardon de mes péchés, j'ai péché contre Dieu, et je suis venu au Seigneur réalisant ce que j'avais fait, et certainement, je me suis humilié devant Dieu. Je ne vais pas proposer un Évangile où il va restaurer l'estime de soi, c'est pas ça que je suis en train de parler, d'accord? J'étais pécheur et Dieu m'a sauvé de mes péchés, m'a pardonné et pris ma place à la croix. En même temps, ce que les gens ne savaient pas, c'est, voyez-vous, moi, mon père a vécu une vie très, très spéciale. Mon père est un juif. Mon père était en Europe pendant la guerre avec Hitler. Mon père a connu ça, là. Mon père était là, son frère a fait des camps de concentration, s'est fait couper les membres. Mon père a eu un traumatisme. D'ailleurs, on a réalisé ça, moi et ma sœur, dans les dernières années de sa vie. Mon père nous disait même, moi je traîne des secrets, puis je ne les dirai pas à personne, jusqu'à ma mort. Mon père était énigmatique, était difficile à comprendre, mais c'était un enfant de la guerre. il a vu ce que c'était. Il s'est réfugié en Angleterre. Ça a été dur pour la famille. Ils se sont, c'est une famille complètement éclatée, tante en Inde, ça, partout. C'était un traumatisme, c'était dur. Il est sorti de ça très hypothéqué. Il est tombé en dépression quelques années, plusieurs reprises, de grosses dépressions. Il a subi des électrochocs dans le temps, c'était très populaire, pour essayer de le sortir de ce qu'il y avait. Mon père était un homme qui avait été brisé par tout ce qui s'est passé dans ces années difficiles avec Hitler. Tout de suite après la guerre, il est déménagé à Montréal. Il a rencontré une femme qui est devenue ma mère. Puis c'était évident que mon père transportait tout ça avec lui. Il était tellement, tellement brisé. Devenu agressif, plein de colère. Tu ne pouvais pas avoir une relation avec mon père. Absolument impossible. Et j'en veux pas. Il était tellement hypothéqué avec toute cette brisure, les menaces de mort continuelles. Si bien que quand il s'est marié, il a transporté tout ça dans son mariage. Pensez-vous que quand il s'est marié, il a trouvé une femme très jolie, fine, généreuse. Pensez-vous que tout ça est parti? Toute sa vie, ça a été des dépressions, la colère. Il y avait tellement de colère à la maison. Tellement de colère, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je peux juste vous dire, je vais vous donner juste un échantillon. Une fois, ma sœur et moi, on s'en allait à Wildwood tous les années. Je ne sais pas, je vous ai peut-être déjà compté ça, je ne suis pas sûr, mais j'étais très jeune, on s'en allait en vacances, comme à tous les ans, à Wildwood. Mon père était là, puis c'est ma mère qui chauffait. Ma mère elle, s'est trompée d'une coupe de route, elle est rendue à New York, c'était pas évident, tout ça. Mais je peux vous dire, mon père, le voyage pour ma sœur et moi s'est résumé de Laval jusqu'à Wildwood. Du criage, je vous dis là, du criage de Laval jusqu'à Wildwood de mon père. Mon père criait dans la voiture, vous pouvez imaginer, ça criait tellement que moi et ma sœur, on se regardait, on avait tellement peur, on pleurait en arrière. J'étais jeune. Mon père criait après ma mère, même à un moment donné, il s'est donné une tape. Il est en train de chauffer dans le coin de New York. Il envoie une tape dans le visage pendant qu'il est en train de chauffer. Ça pleure en avant. Ma mère pleurait, nous autres en arrière. Ça, c'était toujours comme ça chez nous. Toujours. Je suis quasiment battu avec mon père. Les affaires, je ne peux pas compter ici. Alors, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on m'a présenté l'Évangile, cette façade que j'avais. Quelque chose s'est passé lorsqu'on m'a parlé de Jésus-Christ. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui est venu parler à mon cœur. Il disait, moi, je te connais. Moi, je connais le vrai Normand en arrière de tout ça. Là. Je le connais, le petit gars, assis en arrière de la voiture. Chaque jour, menacé, partait à courir des fois pour ne pas se faire attraper par ton père. Je connais ce petit gars-là. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on pense que Dieu n'a pas d'émotion, tout est très rationnel. Mais Dieu est très émotif. Dieu a de la joie, il est parfois triste. On le voit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, Jésus, devant la foule, voit les cœurs. Imaginez ce que Jésus voyait. Ne voyez pas la façade. Jésus est ici ce matin, puis il voit ton cœur. Il la voit ton histoire. Il connaît toutes ces blessures qui sont cachées, que personne ne connaît ici, que tu diras peut-être jamais toute ta vie. Jésus voit nos cœurs. C'est un cœur à un autre cœur. C'est cœur à cœur. Ce n'est pas la façade. Ça dépasse la religion, tout ça, c'est pas ça. Et lorsque j'ai été comme désarmé par l'amour de Christ, ce soir-là, j'ai fondu en larmes et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, sachant que Jésus était prêt à faire un bout de chemin avec moi pour me relever. Jésus voit la foule puis est ému de compassion. Il y a des gens qui sont blessés. Des blessures sont profondes. C'est pas vrai que ça part tout de suite quand tu viens au Seigneur. Je me suis marié. Quelqu'un va subir ta blessure, c'est certain. Ta blessure va aller à quelque part. Ta blessure va peut-être aller contre toi-même. Tu vas t'attaquer, tu vas te descendre. Ta blessure va peut-être aller vers toi. Ta blessure va peut-être aller sur quelqu'un d'autre que tu aimes. C'est ce qui est arrivé chez nous. J'ai pris ma blessure et, comme mon père, j'aurais dû apprendre, mais mon père, vas-tu blessé comme il était? Il s'en est donné lui-même sur lui, tombé en dépression et tout ça. Mais bon sang, sa blessure dû retomber dessus. Tellement hypothéqué. Moi-même, ma femme m'a beaucoup aidé à travers tout ça, elle était patiente avec moi. J'étais tellement agressif. J'étais chrétien, j'étais pasteur. J'en ai honte, d'accord? On s'entend, là. Même mes enfants sont poqués. Ils sont hypothéqués, mes enfants. Par la grâce de Dieu, ils sont en train de guérir. Vois-tu, il faut que tu apprennes. Et ça prend beaucoup de temps, ça. Ça ne se fait pas quelque chose comme ça. Il faut que tu apprennes à mettre ta blessure, non pas sur toi, non pas sur ceux que tu aimes, c'est sur le Seigneur. Et de dire, Seigneur, j'ai été frappé, ça m'a fait mal. Je pense que les psaumes nous aident là-dedans. Je pense que les psaumes avaient compris ça. Et dire, Seigneur, j'ai eu mal. Je pardonne un tel de m'avoir fait du mal. Et j'accepte cette douleur-là qui vient avec cette blessure. C'est quelque chose, hein? Ça, c'est vraiment la foi, ça. J'accepte de prendre cette douleur-là qui est une des conséquences de cette blessure-là. Et je sais, Seigneur, que tranquillement, tu vas venir dans mon cœur guérir cette blessure-là. Ça, c'est Jésus qu'on a. C'est notre Sauveur. Ému de compassion, touché à voir notre cœur. Parce que le Seigneur ne regarde pas l'extérieur, il regarde notre cœur. Et là, Jésus a passé la journée à faire du bien à ces gens-là. Il a touché, voir la souffrance. Il prend toute la journée, guérit des malades. Ils ont-ils été contents de voir la joie des parents de leurs enfants paralysés, qui tout d'un coup se lèvent, quittent leur chaise roulante, commencent à marcher. Tu es un parent. Jésus faisait du bien toute la journée. À un moment donné, les disciples, il est tard, très tard, Jésus a prêché, enseigné toute la journée. Les disciples viennent voir Jésus. Il dit, Jésus, ces gens-là ont faim. 20 quelques mille personnes, ces gens-là ont faim. C'est toujours un gars qui a un don d'organisation. Il trouve quelque part. C'est... Ah oui, c'est vrai, il y a des besoins. OK, on avait du plaisir, on t'aurait fait du bien. Mais c'est vrai, il faut organiser ça. Ça, c'est mon Yannick, ça. Mon Yannick, ça, c'est mon organisateur. Ah, Yannick, il est bon là-dedans. Il est super. Il est doué. Doué. Ça. Dieu bénit Longueuil avec un frère comme ça, tellement doué. Tu vas penser à un détail. Tu pensais à ça? Non. C'est comme... Tu pensais à ça aussi? Ah, mon doux, non, t'es un peu... Alors, les disciples viennent voir Jésus, puis... Et je pense, tu sais, il y a bien des gens qui se moquent un peu des disciples là-dedans. Je pense que c'était très sincère. Les gens avaient faim. Et Jésus vient, les disciples, ils n'ont pas de magasin, il n'y a pas de dépanneur, là, il n'y a pas de couche-tard, rien là-dedans, dans ce coin-là. Là. Alors, les disciples viennent voir Jésus et disent, écoute, il y a des gros besoins, il y a 20 quelques mille personnes, il faut les nourrir, ces gens-là. Alors, Jésus se retourne de bord, puis voici ce qui se passe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Tiens, on va le lire, c'est encore mieux. On est rendu verset 15. Le soir étant venu, j'espère que vous êtes toujours dans le passage, Matthieu 14. Verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dire, « Hey, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Maintenant, à ce point-ci, c'est sûr qu'à ce point-ci, si critique il y a, on fait un petit peu ici, c'est sûr qu'à ce point-ci, c'est sûr que les disciples avaient vu beaucoup de miracles. Alors, certainement, il aurait peut-être eu lieu d'avoir un peu plus de foi et de dire, mais le Seigneur va faire quelque chose, on va leur demander ce qu'ils sont. Mais au moins, ils vont voir le Seigneur. On s'entend? T'as un gros problème, ça dépasse tes ressources. Mon ami, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Allons voir le Seigneur. Au moins, les disciples font ça. Hey, il y a bien des gens qui seraient partis ouvrir un magasin tout de suite. Non, les disciples sont allés voir le Seigneur. Bravo. Super. Alors, les disciples répondent. Verset 16, Jésus leur répondit, bien, ils n'ont pas besoin de s'en aller, voyons donc. Donnez-leur vous-même à manger. Là, je peux voir les disciples. Je suis certain, moi, qu'il y a eu une pause. Il y a eu un silence, certain. Là, tu dois avoir le Yannick qui était pas loin, là. Puis il y a le don d'organisation, là. Puis il s'en vient voir, puis il est sorti d'abord, puis il regarde la foule, puis il y a 25 000 personnes. Il regarde dans ses poches, il voit, y a-tu de la nourriture, les gars? Ça a l'air, ça a-tu un petit peu de sandwich? Peut-être le couper en petits morceaux, faire un. Ceux qui ont fait, hein, sont allés voir ailleurs, sont allés voir partout. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Puis, finalement, ils reviennent avec 5 pains, 2 poissons. Maintenant, tu peux couper un poisson pas mal. À un moment donné, 25 000 personnes, c'est comme des miettes. Tu ne mangeras pas grand-chose. 5 pains, à la limite, ça fait tu peux, ça fait pas beaucoup. Ça fait un lunch famine un peu, mais ça fait pas gros. Alors, c'est ce qui se passe ici. Avez-vous remarqué comment Jésus n'est pas tellement nerveux? C'est pas grand-chose qui l'énerve. Hein, les disciples sont nerveux, là. Surtout quand Jésus a dit « Donnez-leur vos mains, va manger. » As-tu de l'argent, ton compte de banque? As-tu un guichet, carte de guichet, tout ça? Es-tu correct? Vas-y, va tirer de l'argent. Puis... Eux autres, t'es nerveux. Jésus n'est pas nerveux pantoute. Avez-vous remarqué qu'il n'y a rien qui impressionne Jésus? Absolument rien. Il est calme. Hey, « Donnez-leur à manger. » Fait que les disciples sont... Tu sais, tu reçois de la visite, c'est une chose, là, mais là, c'est pas juste la visite à souper, là, c'est comme... ils s'en vont, ramassent 5 pains et 2 poissons, donnent ça à Jésus. Puis Jésus, c'est intéressant, parce que Jésus dit pas, c'est qui a donné ça? Ah, écoute, non, écoute, laisse-lui. Non, Jésus l'a pris. Jésus prend ce que tu as. Il prend tes ressources, puis il veut les avoir. Il donne-moi les, puis tu vois, je vais faire quelque chose de miraculeux avec. C'est intéressant que Jésus se sert de ses disciples. Et ça, c'est une leçon qu'on voit ici. On voit non seulement... la compassion de notre Seigneur, mais on voit comment Jésus va confier un ministère aux disciples et les disciples doivent exercer ce ministère-là pour répondre aux besoins de la foule. Et ça, il y a certainement une leçon à tirer ici pour chacun d'entre nous, que si nous sommes placés ici, c'est que Dieu veut bénir les gens autour de toi, par toi. Dieu va te fournir ce que tu as besoin, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Et oui, des fois, tu vas t'arriver devant des murs, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Immense besoin. Va voir le Seigneur et tu vas voir, regarde, calcule, voir ce que tu peux offrir, ce que tu peux donner. Emmène tes 5 pains et 2 poissons, tu vois ce que le Seigneur va se glorifier à travers toi. C'est ça qu'il veut faire. Il aurait pu dire, de même, tout le monde est nourri, bédaine pleine. Est-ce qu'il aurait pu faire ça, le Seigneur? Hein? Ils n'ont plus faim, on continue le ministère, c'est bien important. Est-ce qu'il aurait... Non, mais... Ben oui, franchement. Faire affaire avec une gang de disciples, tu sais, qui n'ont pas tellement de foi, franchement. Non, Jésus dit, vous autres, j'ai besoin de vous autres. Disait ça, puis toute une organisation. Mon ami, on tout divisé ça, là, c'était un vrai camp, là, tu sais, les 50, 100, ah, c'était beau, là, c'était toute l'herbe. Le temps de l'année, pour ça, c'était fabuleux. C'était vert, là, tu sais, c'est beau gazon, tu as 25 000 personnes, tout bien rangé. Là, il demande aux placeurs. Venez-vous en... distribution des pains. Vas-y. Là, les gars commencent. Ah, OK, on va prendre les 5 pains. Tout là, j'ai un peu. Jésus prie. Il remercie le Seigneur. Il ne dit pas, « Oh, mon Dieu, je suis mal pris, Seigneur. Oh, Père, tu m'as mis dans une épreuve épouvantable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire? » Ça, ce n'est pas la prière du Seigneur. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi, sa prière? Mais lisons-la. Vous êtes rendu où, vous autres? Ça, c'est un truc, quand on s'y pousse, on demande aux autres. Ah, l'expérience, hein? Je pense que c'est 16, hein? Ah oui, c'est ça, OK. 17. Bon, ah, ben, tiens, on va lire verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apporte-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il remercie le Seigneur. Hey, il dit merci. C'est ce qu'on devrait faire quand on est devant un défi, une épreuve qui nous dépasse, tiens, comme là. On dit, waouh, hey, merci Seigneur, une autre occasion pour toi de te glorifier. Waouh, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Ah, c'est une main, tu réponds? Non, j'avoue, moi non plus, pas tout le temps. J'aimerais répondre de même. Hein, on veut répondre comme ça. On veut s'enligner là. Là, c'est ça notre but. Alors, il rompit les pains et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Écoutez bien ce qui va se passer ici. Un vrai bijou. Il ne faut pas manquer ce qui va se passer. Matthieu aime donner des petits détails. Il aurait pu dire, tout le monde a mangé. Ah, il y en avait pour tout le monde a mangé. Il aurait pu faire ça. Il va ajouter deux détails très, très importants. Ça n'a pas l'air grand-chose quand on lit en première main, alors, juste comme ça, à première vue. Il va dire, tous mangèrent à quoi? Excuse, oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Hey, rassasiés, c'est ce que ça veut dire, ça? T'es plein, là. Hey, arrête, là. Non, là, je suis gêné. Donne-moi en plus, là, je vais être... En tout cas, je ne dirais pas ce mot-là ici, mais là, ça, c'est comme gourmand, là. Il y a un autre mot pour ça, mais en tout cas, là, je suis plein, je suis rassasié, j'en peux plus. D'accord? Pourquoi vous pensez que Matthieu est en train de dire ça? Rassasié. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Alors, regardez bien ce qui va se passer ici. Il va ajouter un petit détail. Il dit, non seulement tout le monde était rassasié. Et c'est vraiment intéressant, le mot rassasié, parce que dans l'original, ça veut dire satisfait. Ah, bon sang. Jésus satisfait. Vois-tu? Parce que c'est ce que Matthieu veut démontrer ici, dans le passage. Matthieu veut nous démontrer que Jésus ne peut être réduit qu'à un prophète, qu'à Jean-Baptiste, qu'à Élie, qu'à un prêtre, qu'à un rabbin. Il ne peut être réduit, quoique Jésus est le meilleur prophète qui ait jamais existé. Jésus est le meilleur rabbin, mais il est plus encore. Il est plus qu'un prophète, plus qu'un rabbin, plus qu'un enseignant de la loi. Mais il ne peut être réduit à ces comparaisons-là. Jésus est plus, il est le Messie qui satisfait. Voyez-vous la leçon ici, là? Alors, regardez bien ce qui va se produire ici. Ah, c'est merveilleux. Le miracle démarque Jésus de tous les autres. On appelle ça ici un miracle de création. Ce n'est pas un miracle d'une guérison ici. Tu prends, ça relève du Créateur. Tu crées. Il a créé du pain pour 25 000 personnes et plus. Ce que Matthieu est en train de faire, il est en train de démarquer Jésus de tous les autres, des prophètes, des rabbins, des enseignants, d'Élie et de Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas Jean-Baptiste. Jésus, non, ce n'est pas un prophète. C'est plus encore. Et là, il reste 12 paniers. Tu te demandes, pourquoi Matthieu a pris le temps de dire qu'il en reste 12? Le 12, ça fait penser à quoi? Quand étudies l'Ancien Testament, comme on est en train de faire le dimanche soir dans le Livre des Nombres, une chose que tu revois à tous les chapitres, les 12 tribus d'Israël. Quand tu penses à 12, tu penses à Israël. D'accord? 12 égale Israël. Donc, ce que ça dit, ce que ça laisse entendre, c'est que même les réserves même du Seigneur sont si abondantes que même les restes de sa réserve sont assez pour rencontrer tous les besoins d'Israël. D'accord? Les 12 représentent Israël. Et dans un certain sens, ce festin-là est une image du festin, du banquet messianique que nous allons avoir avec notre Seigneur un jour. Ce que ça dit, c'est qu'avec Jésus, lorsque nous irons le retrouver au ciel, entrer dans l'éternité, nous connaîtrons l'abondance. Parce qu'avec Jésus, c'est l'abondance. Jésus satisfait. Jésus, satisfait. Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es la réponse. Toi, tu satisfais notre âme, notre soif, notre faim. Tu es notre cher Sauveur. Merci Seigneur de ce qu'un jour tu es venu. Tu as pris notre place à la croix pour nous sauver, pour nous emmener à ce festin qui aura lieu un jour, ce banquet messianique que nous connaîtrons tous à tes côtés. Nous nous réjouirons et nous oublierons nos peines et nos douleurs et nos souffrances. Et Seigneur, on peut penser que c'est vraiment là que nous aurons une guérison complète, que tu enlèveras toutes les douleurs et les blessures et les souffrances que nous aurons connues. C'est vraiment là, dans ta présence, Seigneur, que tu nous donneras une guérison complète, si bien qu'il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances. Merci pour tes soins. Merci de ce que tu es un Dieu qui est ému de compassion devant nous. Merci parce que toi, Seigneur, comme on dit en anglais, « you care », tu es attentionné, Seigneur. Et on veut te plaire. On veut répondre à ton message, à ta parole, avec foi, avec joie, Seigneur, et pour ta gloire. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas encore comme son sauveur personnel. Eh bien, que ce matin, il puisse remettre sa vie entre tes mains parce que tu satisfais l'âme. La réponse est auprès de toi, Seigneur, et pas ailleurs. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qu'il dise oui à Jésus, qu'il te demande de venir dans sa vie en ce moment même. Au nom de Jésus. Amen.